since I was a young boy.
Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et oui, c'est Francis, vous avez reconnu le générique de Lundi Sport Live. Et bien là, aujourd'hui, c'est pas Lundi Sport Live, c'est Vendredi Sport Live avec la pluie. Nous sommes en direct de la foire de l'Aréole. Et pour cette émission de sport, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Bouda. Thomas Bouda, le cycliste, et oui. Thomas, on l'avait reçu déjà en 2015, c'était juste après son titre champion du monde de l'Omnium et avant les Jeux Olympiques. Et maintenant, ben, notre ami, il a pédalé, il a deux Tours de France à son actif et peut-être le prochain Tour de France 2020. Mais pour ça, il va nous en parler. Et pour accueillir Thomas Bouda, j'ai un ancien cycliste à ses jours perdus, évidemment, c'est notre ami Gérard Beau. Bonjour Thomas et bonjour Gérard.
Bonjour. Bonjour Francis, bonjour Thomas. Je voudrais saluer aujourd'hui en particulier, malgré ce jour un petit peu pluvieux ici sur la région de l'Aréole, eh bien saluer tous les saints, puisque c'est la journée de tous les saints. La journée des morts, c'est demain, samedi. Donc aujourd'hui, saluons tous les saints. Et une petite anecdote sur les saints. Sachez qu'au 19e siècle, il y a eu un procès retentissant entre deux artistes dont je tairai le nom. Et ces deux artistes, il y en a un qui avait prêté de l'argent à l'autre. Et l'autre lui avait dit, je te rendrai ton argent à la Saint-Glinglin. Et donc, la Saint-Glinglin n'existant pas, le prêteur d'argent est allé au tribunal, et ce prêteur d'argent donc a expliqué au tribunal que son créancier lui avait dit qu'il lui rembourserait la Saint-Glinglin. Le tribunal a tranché très rapidement en disant, ben, puisque le 1er novembre c'est la Toussaint, on va tout simplement dire que c'est également la Saint-Glinglin. Donc le monsieur a été accusé de ne pas avoir remboursé l'argent. Et la Saint-Glinglin existe vraiment, c'est le jour de la Toussaint, et il a dû rembourser sa dette. Voilà, petite anecdote croustillante. Mais bonjour à toutes et à tous. Il ne fait pas beau aujourd'hui, Francis est rayonnant, Thomas est splendide dans son vêtement de sport, et passez une très belle émission, c'est un vrai plaisir de partager avec vous mes amours.
Bon, ben merci pour cette analyse parfaite, mon cher Gérard. Tu mets dans l'ambiance. Alors Thomas, on disait, ça a roulé depuis 2015.
Ah, il y a eu quelques kilomètres de fait, effectivement, oui.
Hein? Alors, parle-nous un petit peu de ton actualité récente, et puis après on reviendra sur ton parcours.
Là, l'actualité récente, c'est le changement d'équipe pour l'année prochaine, qui va opérer à partir du 1er janvier. Après 7 ans dans la formation Total Direct Energy, anciennement Europcar, j'ai décidé de partir dans la formation Arkea Samsic. Un nouveau projet s'ouvre à moi, beaucoup de nouveaux projets et de nouveaux défis, et j'ai hâte que ça commence.
Alors on quitte Jean-René ?
On quitte Jean-René, pas fâché, mais j'avais besoin de changer d'air, de voir autre chose, et je pense que ça fait partie de l'évolution, du plan de carrière. Et l'équipe Arkea m'a proposé quelque chose de vraiment stimulant pour les années futures, et ils ont un gros développement, un gros recrutement avec beaucoup d'ambition, et j'ai à cœur de faire partie de ce projet. Et j'espère que
t'auras les coups des franches sur certaines
épreuves. Oui, c'est aussi pour c'est, ça que ouais, voilà, c'est ça. Que je me suis dirigé vers l'équipe
tu
de
Manuel Hubert. Tu ne seras pas comme
porteur d'eau. C'est ça. Ouais. J'avais à cœur de pouvoir défendre mes chances aussi, et ouais, c'est important aussi pour la progression, et même personnellement, si je vais en course, moi c'est pour gagner des courses. Je me lève le matin, c'est pour m'entraîner, je pense à gagner des courses, et c'était important pour moi d'avoir un rôle de leader, pas sur toutes les courses forcément, il faudra que je me mette au service d'autres coureurs, mais j'aurai l'occasion de pouvoir m'exprimer sur certaines courses qu'on aura définies avec la direction sportive, et c'est ça qui était intéressant dans le projet d'Arkea.
Alors on pourra te retrouver sur les classiques, bon, hormis le Tour de France, les classiques, les Belges.
Je sais pas encore, ça dépendra.
Les Italiennes.
Les Italiennes, pourquoi pas, les Belges certainement, ça dépendra du programme que l'équipe va me fixer. J'ai un premier stage là le 21 novembre avec eux, on va déjà dégrossir un petit peu le programme pour la saison prochaine. On est soumis aux invitations encore pour l'année prochaine, notamment pour le Tour de France et toutes les grosses courses pro tour.
Oui, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs que ça, vous n'êtes pas une équipe World Tour.
C'est ça.
Et donc c'est par des points, par l'attribution de points UCI.
C'est ça. Et en fait, le classement, ça se passe comme au foot en Ligue 1 ou comme ça. Les meilleurs, ceux qui ont le plus de points, peuvent accéder aux compétitions de plus haut niveau. Et ceux qui sont en dessous doivent être soumis à des invitations par les organisateurs et cette année avec le recrutement de
Ah oui, voilà, normal, c'est ce que j'allais te poser comme question. Vu le recrutement, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de Tour de France.
Ouais, après...
Parce que dis-nous qui c'est que vous avez recruté quand même.
Ouais, ils ont recruté Nasser Bouhanni et Nairo Quintana, entre autres. Donc c'est quand même deux grosses cartes et... Pour des organisateurs, c'est toujours bien d'avoir des coureurs comme ça au départ de leur course.
Alors toi qui as côtoyé Quintana de près sur le Tour de France,
ouais.
Est-ce qu'il est, il est toujours en bourre ou il est un peu en déclin?
Non, il a l'air vraiment motivé.
Parce que les dernières épreuves qu'il a fait, on a vu qu'il était motivé.
Ouais, il était très motivé. Et je pense que là, le fait de changer d'équipe, ça va le motiver davantage. Il va vouloir montrer tout l'étendue de son talent. En plus, il retrouve son frère, ce qui lui manquait, je pense, chez Movistar. Ils avaient été séparés et il avait à cœur de recourir avec son frère. Et on sait que pour les Colombiens, l'aspect familial, c'est très important. Donc je pense que ça va lui donner une motivation supplémentaire et il aura à cœur de réussir.
Alors, autre question, Thomas. T'as été jeune, t'as 25 ans, tu fais plus partie de la nouvelle génération.
Non, c'est fini, je suis vieux.
T'étais quelqu'un qui est ancré dans le peloton. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération de jeunes qui cassent les codes, comme Van Aert, Van Poppel et le fameux prodige Remco Evenepoel?
Ouais.
Ils cassent les codes, ces garçons-là.
Ouais, c'est sûr. Le cyclisme était plutôt un sport où on perçait à l'âge de 27-28 ans. Quand on voit des coureurs comme Remco Evenepoel qui arrive, ils ont 19 ans, il fait un podium sur le championnat du monde de contre-la-montre, qui est une discipline vraiment de spécialiste et où il faut quand même avoir de la force qu'on accumule au fur et à mesure des années dans le peloton, ça surprend et ça remet en question aussi notre préparation et,
oui, c'est ça.
Et tout ce qu'on a fait en amont, parce qu'on disait les jeunes, il faut pas les griller.
Oui, mais
au
là,
final, on s'aperçoit que maintenant... Les jeunes, ils ont plus de complexe, ils arrivent très très jeunes et ils performent dès le plus jeune âge, même au plus haut niveau international. Donc ça remet en question pas mal de choses sur la préparation et sur l'approche des compétitions au plus haut niveau.
Oui, parce qu'en plus, Evenepoel, c'est un garçon qui était junior, et qui est de junior. Est passé directement professionnel, il a pas passé la case élite.
Non, hein, il a pas le temps pour ça, lui.
Et sur le dernier championnat du monde où il a remporté, s'il l'avait fait en élite, il aurait mis plus de 6 minutes à celui qui a gagné en élite.
Ouais.
Il avait fallu qu'il sorte les élites.
Ah oui, je comprends, oui, tout à fait. Moi, j'avais une question, Thomas, à te poser.
Oui.
Sur une année de 365 jours, ça représente combien de milliers de kilomètres en entraînement plus les courses, moyenne?
Ça fait à peu près une saison à 30 000 kilomètres. Du 1er janvier au 31 décembre, ça fait à peu près ça, oui.
30 000 kilomètres par an en bicyclette.
Oui.
C'est de la folie. Et combien en course sur ces 30 000?
Il y a 10 000 km en course, ça dépend s'il y a des grands tours sur le Tour de France. Déjà, on en prend 3 500 d'un coup en 3 semaines, donc ça fait vite monter le compteur. Mais c'est entre 10 000 12 000 km.
Donc 30 000 km sur une année, donc c'est le temps d'une révision en fait.
C'est ça.
Faire la vidange.
C'est ça, c'est pour ça que là je suis en coupure un peu, on fait la vidange, on refait tous les niveaux, on récupère parce qu'on tire l'organisme quand même jusque dans ses retranchements.
Les 30 000 km, c'est pas que du plat, il y a...
Malheureusement pour moi, non. Non, ça nous arrive d'aller dans des grands cols, dans les Alpes, dans les Pyrénées. Et en général, il y a toujours des petits vallons, même sur des courses qui sont dites plates. On a toujours des dénivelés, on arrive quand même à avoir 1000 mètres de dénivelé sur la journée.
Oh là là.
Même pour des courses qui sont dites plates. Et pour nous, moi qui suis sprinter, c'est pas un avantage.
Ça fait combien de temps que tu es pro là?
Ça fait 5 ans et j'étais dans la réserve de Direct Energy 2 ans avant.
D'accord.
Donc ça fait 5 ans déjà que je suis pro.
Donc 5 ans, 30 000, 150 000 kilomètres au compteur.
C'est ça. J'étais avec Sylvain Chavanel hier parce qu'on a visité l'entreprise de Lucien Georgelin pas loin.
Les confitures, on salue Lucien Georgelin parce que c'est vraiment un homme exceptionnel et adorable.
Sûr. Ça c'est sûr.
Il ne fait pas que des confitures, il fait des bonbons, il fait des sucreries,
des pâtés,
il fait
tout
des
ce qui
pâtés,
est
des terrines. C'est génial. On salue Lucien s'il écoute la radio.
On le salue. Et donc on était avec lui et Chava nous disait qu'il avait fait 650 000 km durant sa carrière. Donc j'ai encore de la marche.
650 000. Ouais, il y a peu de voitures qui arrivent à ce kilométrage-là.
C'est sûr. Et lui, il est toujours en forme.
Bravo à toi, Thomas. Vraiment. Merci. Tu fais partie de nos fiertés. Merci. C'est un plaisir de dialoguer avec toi.
C'est gentil, merci.
Nos auditeurs, ils vont pédaler, ils vont cogiter le temps d'une pause musicale. On est de retour sur Radio Entre Deux Mers, toujours en direct de la foire avec, vous êtes évidemment dans lundi Sport Live, non maintenant on va le dire vendredi Sport Live, avec la pluie, toujours en compagnie de Thomas Bouda et de Gérard Beau qui fait son petit interview aussi de temps en temps. Alors Thomas, on parlait hors antenne, c'est un peu difficile maintenant de pouvoir gagner une étape quand on est à trois échappées. Moi je bouge dans mon fauteuil quand je regarde un petit peu tout ça. En plus, c'est commenté quelquefois, c'est très aléatoire aussi. Parce que je pense qu'il faudrait mieux d'être certain sur un vélo, parce que plutôt que d'être né avec un micro dans les mains.
Bien sûr, mais ça me rappelle Robert Chapat qui était un vrai.
Ah voilà, joueur, un puriste.
Un puriste comme Roger Coudert pour le rugby. Ces gens-là nous manquent aujourd'hui. Hein.
C'est sûr. Il faisait vivre le sport.
Voilà, maintenant il y a des arrêts. Bon, ben, chacun a ses préférences. Alors donc, on va parler un petit peu. Ben parle-nous un petit peu de la piste. Tu la gardes ou tu l'as abandonnée un petit peu?
J'essaie de la garder, c'est compliqué parce qu'on a pas mal de compétitions, pas mal d'impératifs sur la route. Et sur piste, c'est difficile de trouver du temps d'y aller parce que les compétitions sont souvent très loin. Là, l'équipe de France est actuellement en Biélorussie. Il y a beaucoup de décalage horaire, c'est des stages de préparation avant. Et de coller ça avec un emploi du temps sur route où on a déjà pas mal de déplacements, on a 80 jours de course, ça fait presque 200 jours de déplacement. Donc ça fait beaucoup à rajouter après. Il faut quand même qu'on ait une période où on puisse se reposer un petit peu. Et puis il faut aussi que les équipes nous laissent la possibilité d'aller sur la piste parce que pour eux ça apporte pas grand chose au niveau de la visibilité.
Pourtant là, au récent, les récents championnats du monde, il y a quand même des éléments comme j'ai vu par exemple Viviani,
ouais, mais c'est que son équipe est d'accord,
voilà, c'est ça.
Pour le laisser aller.
Ton ancien copain
Brian, il était au championnat d'Europe aussi. Mais il est d'ailleurs à Minsk, mais c'est que son équipe, il a négocié avec son équipe de pouvoir faire de la piste, parce que pour les équipes ça rapporte pas grand chose, et eux ce qu'ils veulent c'est des victoires sur la route, et la piste commence à être médiatisée, heureusement, et les coureurs arrivent à gagner un peu leur vie sur la piste. Mais il faut savoir que nous, quand on va sur la piste, c'est notre équipe pro route qui nous paie, et on n'a pas de fonds débloqués par la fédération.
Et il y a les histoires d'assurance aussi.
Ouais, aussi. Et puis, comme je dis, ils préfèrent qu'on gagne une course sur route, à part un titre de champion du monde ou de champion olympique. Mais bon, c'est quand même arrivé à un niveau très très élevé. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même faire beaucoup de compétitions en amont. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est pas cette énergie-là qu'on met sur la piste, c'est pas celle qu'on peut mettre sur la route. Pour eux, c'est toujours compliqué, même si ça change un petit peu, les mentalités évoluent.
Et toi, tout à l'heure, tu disais que tu étais un sprinter. Mmh. Alors, comment tu fais pour pouvoir t'entraîner au niveau du sprint si, parce que là, on sait que la piste, ça, c'est fait pour être pour les sprinters.
C'est sûr. Après, je m'entraîne toujours sur le vélodrome de Bordeaux-Lac. Je fais beaucoup d'entraînement, beaucoup de séances d'entraînement. Daniel Pandelet, qui est le gérant, arrive à trouver des créneaux quand il n'y a pas de disponibilité avec la fédération, avec le comité d'Aquitaine. Mais j'essaie toujours de garder quand même d'agrémenter mes entraînements par de la piste parce que ça permet d'avoir cette vélocité, la pointe de vitesse, cette accélération qu'on peut travailler sur la route hein, avec du derrière scooter ou on se fait entraîner avec du derrière scooter et on doit sprinter à côté du scooter. Mais sur la piste, c'est quand même pas le même coup de pédale qu'on retrouve et c'est sûr que c'est un point qui est important à travailler. C'est pour ça qu'on a des coureurs comme Viviani ou même Cavendish qui font beaucoup de pistes.
Ouais, c'est ça. Et par contre, pour 2020, au niveau du sprint, là, j'ai regardé un petit peu, t'as des chances.
Oui.
Hein, parce que il y en a qui sont vieillissants. André, ça y est, il a pris sa retraite. Cavendish, je l'ai vu l'autre jour, c'était les 6 jours de Londres.
Ouais.
Bon, et Viviani était vraiment supérieur à lui.
C'est sûr.
Bon, il reste que Viviani, quoi.
Ouais. Il y a quand même beaucoup de bons sprinters, mais c'est sûr
parce que
là.
Parce que la DJ, il va avoir un an de plus.
Arnaud Démare, ah, oui, ouais. Ça reste un très très grand sprinter, c'est un des meilleurs sprinters actuellement. Mais c'est sûr qu'il y a une page qui se tourne avec des coureurs comme Cavendish, Greipel, même Kittel.
Oui,
c'est des coureurs qui ont gagné, à eux, ils ont dû gagner une cinquantaine d'étapes sur le Tour de France.
Oui.
Donc le fait que des coureurs comme ça arrêtent, ça laisse la place aussi à des jeunes coureurs. Même moi, je suis plus très jeune, mais il y a beaucoup plus d'opportunités qu'avant. C'est vrai que des coureurs comme ça, quand ils étaient au départ d'une course, on savait qu'ils allaient forcément gagner ou être sur le podium au minimum.
Est-ce qu'on a une idée, Thomas, si c'est pas indiscret, si ça n'est pas touché le discret ou le secret, gagner une étape du Tour de France, on gagne combien en fait?
Pas grand chose. Je pense que pour gagner une étape, on gagne 15-20 000 euros
à partager entre
qu'on partage l'équipe. Avec l'équipe, oui, forcément.
Non, parce que je fais référence à d'autres sports où c'est des millions d'euros quelquefois pour.
Eh oui, non, c'est pas pareil, c'est pas pareil.
Et un sujet qui me touche à cœur, parce qu'on en a évoqué tout à l'heure, moi il y a une chose qui me dérange et qui me gêne, c'est que chaque fois qu'il y a une grande course classique, on parle toujours de dopage dans le cyclisme et on n'en parle jamais dans les autres sports. J'aimerais que tu me dises, si ça ne te dérange pas, non pas, je ne veux pas savoir ce qui se passe, c'est pas ça, mais pourquoi faisons-nous une fixette, mais vraiment une fixette sur le cyclisme et pas les autres sports?
C'est sûr, c'est un gros problème pour nous. On a souffert de cette image de sport où il y a beaucoup de dopage, mais il y a du dopage dans tous les autres sports. Des tricheurs, il y en a partout.
Merci de le dire et écoutez bien ce que dit Thomas. C'est important, il y en a partout.
Et ouais, c'est ça le truc. Et c'est que nous, on est toujours montré du doigt parce que c'est un sport où ben forcément le dépassement de soi est peut-être. On le voit beaucoup plus facilement à la télé que dans d'autres sports. Mais c'est sûr que dans d'autres sports, et ça je peux vous le certifier, malheureusement, il y a des tricheurs partout. Et nous, on en souffre beaucoup, et notamment. À l'approche du Tour de France, il y a toujours des histoires de dopage qui sortent pour décrédibiliser le cyclisme.
Exactement, et ça, il y en a ras-le-bol. Moi, je dis que les journalistes sont fautifs et portent une bonne part de responsabilité
c'est sûr.
Véhiculer ce genre d'infos.
C'est sûr.
Justement, j'allais y venir. Gérard, quand tu parles de journalistes et de dopage, moi, je dirais une chose, c'est que les trois quarts du temps, ça part des journalistes français.
C'est problématique.
Mais pas étranger.
Oui, tu as raison, Francis.
Il faut voir, par exemple, une Vuelta et un Tour de France, c'est deux tours différents.
C'est pas pareil.
Même en Italie. Et il y a des coureurs, je sais, par expérience, mais pour avoir lu et entendu des interviews, il y a des coureurs qui préfèrent faire la Vuelta ou le Giro que le Tour de France.
C'est sûr.
Parce qu'ils ont peur de ça.
Il y a toujours cette
suspicion. Il y a une pression énorme.
Il y a une pression complètement folle et moi, ça m'insupporte, quoi, oui. Vraiment.
Mais après, le truc, c'est que le Tour de France, c'est la plus grosse épreuve pour nous, cyclistes. Il n'y a rien qui équivaut à cette course-là. C'est tellement facile de vendre du papier pendant cette période-là, parce qu'il y a tout le monde entier qui a les yeux rivés sur le Tour de France. Même des gens qui ne connaissent pas, on leur parle de Tour de France, ah oui, ça leur dit quelque chose. Des gens qui suivent pas le vélo, et ils regardent le Tour de France. Et ça nous fait beaucoup de mal. Et
beaucoup de tort, et il faut le dire, il faut redorer l'image de marque, entre guillemets, votre image, parce que c'est vous qui pédalez.
C'est sûr.
Et très sincèrement, moi j'ai beaucoup de compassion pour vous, parce que même dopé, allez, allons jusqu'au bout, même dopé, il faut les faire les 200 bornes et les 5 cols dans la journée.
Oui, c'est sûr.
Même dopé, allez, essayez de monter sur une bicyclette, essayez de pédaler au pied d'un col. Moi, je ne mets pas une pédale devant l'autre. Les cols à 17 à 19%, c'est de la folie, quoi.
Et Gérard, imagine le dopage, s'il fait effet après la course. Dans la chambre d'hôtel.
Oui.
Mais il faut bien calibre.
Oui. Non, mais moi, si vous voulez, j'ai là sur mon téléphone, j'ai une application où je dois me géolocaliser 24 heures sur 24. Et les instances qui luttent contre le dopage peuvent venir me voir à n'importe quel moment de la journée sans me prévenir. Devant chez moi, ils sonnent, ils me disent on fait un test sanguin, un test urinaire pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Dans les autres sports, ça se fait beaucoup moins que chez nous. Énormément en avance par rapport à ça, et moi je peux vous dire, j'ai déjà eu des contrôles à 6h du matin, ils viennent le soir à 22h. Ça fait pas plaisir, mais ça fait partie du métier.
Bien sûr.
Ça, les gens le savent pas assez. Tous les jours, je suis obligé de donner ma localisation, et je peux vous dire que c'est lourd, hein. Tous les jours, il faut donner.
C'est important ce que tu dis, Thomas. C'est important.
Et ça, les gens le savent pas, et on le dit pas assez, mais pour nous, c'est lourd, parce que quand on part en vacances, on doit se géolocaliser. Peu importe ce qu'on fait, il faut qu'on dise où on est et que les instances antidopage puissent venir nous contrôler à n'importe quel moment de la journée.
Écoutez bien les auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers, écoutez bien ce que dit Thomas. C'est hyper important et hyper pointu. N'importe quel moment du jour et de la nuit, 24 heures sur 24, 365 jours par an, il est susceptible de se lever, il est susceptible d'être interpellé pour faire des analyses et des prises de sang. Ça, c'est important.
Et je vais même dire mieux, je vais te donner une solution. Est-ce que tu connais l'histoire de la sonnette qui est cassée?
Ouais.
C'est arrivé à une joueuse de tennis.
Ouais.
Elle a fait deux no-shoots, on appelle ça deux no-shoots, en prétextant que c'était sa sonnette qui était cassée. Et elle a pu continuer sans aucun problème, une tennismen française.
Non, mais ça me rappelle une histoire authentique dans les années 47-48, les premiers. Il y avait la course Paris-Brest, qui était un classique, comme le Bordeaux-Paris-Bordeaux, hein,
oui.
Qui était un grand classique, avec les deux frangins bordelais, là. La Pébille,
oui.
J'ai bien connu Roger. Et il y a un cycliste qui avait donné qui avait échangé une fiole d'urine avec celle de son épouse, et on lui a appris après la course que le cycliste était enceinte.
C'est assez drôle.
Et puisqu'on en est à parler de ces années folles, il fut une époque, une année aussi, où il y a un cycliste, c'était le premier noir.
Ah oui.
Le premier noir qui a fait le Tour de France. Et il avait soif, à un moment donné. Il a pris le premier chemin à gauche, il est arrivé dans une ferme, ils lui ont donné à boire, mais ils lui ont donné du rouge. Il est reparti. Il a traversé la ligne de départ à lever les bras. C'est le premier noir qui a gagné une étape à l'envers.
Et Poulidor, l'éternel second Poupou que nous saluons, qui était malade il y a quelques semaines,
oui.
il est fatigué, il a plus de 80 ans. Ce Normand de nature et de naissance racontait un jour qu'il était arrivé au sprint, il avait gagné. Et il y en a qui était avec lui, un suceur comme on le dit, qui n'a jamais voulu prendre le relais avec lui. Et donc Poulidor s'est retrouvé sur une trentaine de kilomètres avant l'arrivée à ne pas avoir son collègue d'échappée. Il n'a pas voulu prendre le relais pour le coincer, mais Poulidor était plus fort, il l'a gagné. Et il est allé le voir, Poulidor, et il lui a dit: « Mon cher ami, vous fites ce que vous putes, mais vous m'épatate. »
Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va remarquer encore une pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Entre-deux-Mers.
Millions de poulies d'or, la passion, le cœur en or, mais il roule derrière, souvent derrière. 60 millions de poulies d'or, on les aime, on les adore, même s'ils roulent derrière, souvent derrière. S'endort, qui se reconnaît dans leur sort. Tendresse et tendresse, réconfort, du bon mon cœur pour 60 millions. Du bel effort, des champions, pas des matamores, mais ils roulent derrière, souvent derrière, toujours partant, donne le meilleur, toujours content, toujours d'accord, même s'ils roulent derrière, souvent derrière. La vie est sévère pour les moins forts, mais elle les console franco de port, en montrant les lanternes rouges qui rament à mort, accaparé par leur dérailleur, en montrant aussi dans sa tour d'ivoire le désespoir d'enquêter, si seul tandis que rigole 60 millions de poulies d'or.
Thomas, j'ai une question peut-être dérangeante. Quid de l'amour pendant un Tour de France? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a beaucoup de mystères autour de tout ça, c'est sûr.
Oui.
La légende dit qu'il ne faut pas passer la journée de repos avec sa compagne. Après, je ne pense pas que ça fasse grand-chose. C'est important d'avoir ses proches autour de soi et notamment sa compagne. On part pour 3 semaines de course, mais en tout, ça fait un mois sans voir nos proches réellement. On les voit très très peu pendant le Tour de France. Donc forcément, des fois, il y en a qui se laissent tenter et qui passent des moments agréables avec leur conjointe.
Et est-ce que ça se voit sur le petit compteur que vous avez sur le guidon?
Non, il n'y a pas la puissance développée
les watts. La
nuit. Les watts, exactement. Oui.
Non, mais... Le col de l'utérus est un autre col.
C'est pas pareil.
Il est overbooké.
Pendant le Tour de France, pas trop.
Alors Thomas, on va aborder un peu une partie un peu plus technique. On va parler, puisque je sais que les auditeurs nous aiment ça, c'est parler du matériel.
Oui.
On sait qu'un vélo, c'est entre 10 et 15 000 euros.
Ouais.
Un vélo de... Vos vélos.
Ouais.
Donc c'est quand même pas une paille. Et quand vous changez comme ça, est-ce que vous faites attention dans votre contrat, par exemple, est-ce que vous faites attention au matériel en disant ah mais là je vais là parce qu'ils ont un meilleur matériel que le nôtre.
Oui, c'est très important pour nous, surtout que maintenant le matériel évolue énormément avec le carbone, l'aérodynamisme, tous les vélos maintenant sont testés en soufflerie, donc ça joue énormément, surtout pour les vélos de contre-la-montre. Il y a des marques qui sont forcément en avance sur d'autres et c'est vrai que ça peut peser dans la balance lorsqu'on a le choix d'une équipe à faire. Et maintenant le sport cycliste ça devient un sport comme le sport automobile où le matériel joue un rôle énorme sur la performance, que ça aille du boyau jusqu'aux roues, aux moyeux, aux pédales, tout rentre en compte. Et tout ça mis bout à bout, le niveau est tellement resserré entre nous tous que bah, c'est des petits détails qui font la différence.
Est-ce qu'il y a un poids minimum et maximum à avoir sur une bicyclette?
Il y a un poids minimum à ne pas franchir, c'est 6,8 kg. C'est une règle qui est.
On ne peut pas aller en dessous de 6 kg.
On peut pas aller en dessous de 6 kg.
Mais on peut le faire.
Ah oui, oui, il y a des vélos qui sont à 4-5 kg. Mais les instances estiment qu'ils ne sont pas assez solides et les garanties ne sont pas requises. Par rapport à la solidité du vélo et ils estiment que c'est trop dangereux pour nous de prendre des vélos comme ça qui sont beaucoup trop allégés et pas assez résistants. Dans des descentes ça nous arrive d'aller à 120-130 km/h sur des petits cadres avec des petits pneus et des vélos trop légers forcément ça serait.
Est-ce que t'es un bon descendeur toi Thomas?
Je suis pas un mauvais descendeur. Il y a meilleur que moi, ouais. Mais je suis pas un mauvais descendeur.
Il y a des bonnes dans le peloton.
Ah, il y a des fous même. Il y a des fous.
Francis parle de matériel, moi je parlerai d'équipement. Est-ce que la tenue vestimentaire joue un rôle important? Est-ce que les chaussures jouent un rôle important?
Très important, ça c'est sûr que c'est très très important. Les chaussures, le cuissard, la peau de chamois. Il faut savoir qu'on passe entre 4 et 6 heures de notre journée dans un cuissard. Sur la selle elle fait 15-20 cm de large, c'est pas l'idéal, c'est pas très confortable. Et c'est des équipements qui sont vraiment très importants et adaptés à chacun d'entre nous.
Donc c'est du sur mesure.
Et 30 000 bornes, Gérard. Hein.
Ah ouais, 30 000 bornes, le cul sur 15 cm.
C'est ça.
Non, mais quelque part.
Au millimètre carré, ça fait quand même du poids.
Mais oui. Et donc c'est très important pour nous, notamment quand on enchaîne les courses sur des courses par étapes. D'avoir des cuissards qui sont adaptés à notre morphologie et des chaussures qui sont aussi adaptées à nos pieds parce que bah là, le moindre déséquilibre, on fait tellement de tours de pédales dans une journée que un grain de sable ça vient causer des dégâts énormes sur le corps.
Et il y a même, puisqu'on parle textile, les chaussettes, parce que j'ai vu qu'il y avait eu un problème de chaussettes avec le contre-la-montre.
Ouais, c'est
de hauteur de chaussettes.
On se bat souvent et il y a des points qui sont gravissimes, je dirais, où des fois on met la santé des coureurs en danger et les commissaires ne font rien pour ça. Mais par contre, pour venir nous dire et nous mettre des amendes, parce que on a une chaussette de 0,5 cm trop haute,
ouais.
Ils viennent nous mettre des amendes, parfois nous empêcher de prendre le départ, alors qu'à côté, des fois, on prend des risques inconsidérés dans des descentes. Lorsqu'il fait, ça m'est arrivé de courir avec 45 degrés au compteur toute la journée. Les voitures, il n'y avait plus de bidon derrière parce qu'on n'avait pas assez d'eau tellement on consommait d'eau.
Mais cet été.
Cet été. Et les commissaires n'ont rien fait, n'ont pas raccourci la course, alors que pour des histoires de chaussettes, de hauteur de chaussettes, on va se prendre la tête et ça va créer des soucis énormes. Alors qu'à côté de ça, il y a des choses à faire avant ça. Et il y a eu pas mal de révoltes de coureurs sur ces championnats du monde. Ça s'est passé lors des championnats du monde. Il y a eu pas mal de révoltes de coureurs par rapport aux instances qui s'attardaient à embêter les coureurs par rapport à ça. C'est sûr qu'il faut une limite, mais on le voit, si le coureur il a sa chaussette à hauteur du genou, ou s'il l'a un peu plus haut que le mollet, il n'y a pas mort d'homme. Et à côté, il faudrait déjà faire quelque chose pour s'assurer de la sécurité de tous les coureurs sur toutes les courses.
Une épreuve comme le Tour de France, traditionnellement, sur une étape classique en pleine chaleur, ça consomme combien de liquide, enfin d'eau
C'est énorme.
Énorme.
C'est énorme, oui. On dit qu'on prend un bidon quand il fait vraiment chaud, C'est arrivé qu'on prenait un bidon toutes les 15-20 minutes à peu près.
Et un bidon, ça fait combien?
Ça fait 50 centilitres.
Et dedans, c'est de l'eau et du sirop.
Donc sur une course de 6 heures, ça fait 12 bidons.
Ouais, même plus, parce que ça, c'est ce qu'on boit. Et après, on s'arrose, on prend beaucoup de bidons pour s'arroser et tout ça. Il y a en gros, sur une course, une grosse course où il fait très chaud, de 200 km, on prend une vingtaine de bidons.
Je vous vois souvent sur vos bicyclettes utiliser des espèces de petits stickers que vous déchirez et il y a une pâte ou une ou quelque chose à l'intérieur. Enfin, on pousse avec les doigts.
C'est ça.
Et
c'est
ça.
Il y a soit des concentrés de fruits ou c'est des gels liquides dans lesquels ils mettent du sucre, tous les éléments nécessaires
nutritifs
pour qu'on puisse continuer.
Des sucres lents et des sucres rapides.
Exactement. D'accord. Suivant, il y a même des tubes différents suivant les moments de la course.
D'accord.
On prend pas les mêmes au début qu'à la fin.
D'accord, très bien. Et je vous vois jeter les bidons et je vois les spectateurs se ruer sur vos bidons.
Ça fait partie du folklore.
Ouais, voilà. Et puis les partenaires.
Et en plus, vous êtes décrié là-dessus.
Ouais,
mais pour le développement durable, c'est une autre.
Après, pour tous les déchets, les papiers, justement, des gels et tout ça, on a des zones, le Tour de France est pionnier pour ça, on a des zones bien définies où on doit jeter les papiers à cet endroit-là. Et si on les jette dans la nature, surtout dans les étapes de montagne et tout ça, on a des amendes justement. Ouais, ça, les gens le savent pas, mais nous, on est sensibilisés sur ça. Et Christian Prudhomme fait la chasse à ça parce que justement, le Tour de France veut être le pionnier et avancer cette guerre pour l'écologie. Et on a des amendes si on jette nos papiers n'importe où dans la nature. Donc on a des poches, on les remet dedans et on les jette dans des endroits qui sont définis par l'organisateur, où là il y a des gens qui ramassent tous les papiers des gens de l'organisation qui ramassent tous les papiers de tous les coureurs, et ça permet d'éviter toute pollution. En ce qui concerne les bidons, c'est différent parce que là, ça fait partie un petit peu du folklore. Les gens aiment bien récupérer un petit souvenir du Tour de France. Oui. Et un bidon de coureur, c'est toujours sympa, surtout pour les petits.
Et puis, il y a déjà un moment que Cochonou est passé. Hein.
Exactement. Et ça permet de maintenir les gens. Et pour les petits, c'est toujours sympa d'avoir des bidons au cours des étapes.
Sûr.
Et même nous, on fait attention souvent à essayer de jeter les bidons pour les petits-enfants qui sont sur le bord de la route.
Et une question pratique. Pipi, comment on fait?
Oh, c'est très simple. On s'arrête et on repart dans la
voiture. Ah, j'en ai vu qui font pipi à un roulant. Hein.
Il y en a. Moi aussi. Quand on n'a pas le temps, parce que en fait, quand on a le temps, on prend le temps de s'arrêter. Quand ça roule pas très vite, que l'échappée est partie, souvent... Le premier pipi, l'échappée se dessine, on les laisse partir et le peloton, on se met tous à ralentir d'un commun accord. Et là, en principe, les grands leaders s'arrêtent et ça donne le signal pour pouvoir s'arrêter et faire les
besoins. Parce qu'il y a des codes. On ne le sait jamais filmé, ça on ne le voit pas.
Non, c'est jamais filmé. Il y a quelques loupés, on dira, mais c'est souvent les grands leaders. Sur le
Tour de France féminin.
Non, mais logiquement, quand ils prennent l'antenne à la télé, le pipi il est déjà fait.
Ouais. Après, on s'arrête pendant la course. On profite des temps où c'est propice, des grandes lignes droites, où on sait qu'on va pouvoir reprendre l'aspiration dans les files de voitures de directeurs sportifs derrière. Mais quand ça roule très vite, ça nous arrive de faire directement sur le vélo. Et c'est beaucoup plus rapide. On se positionne à l'avant du peloton et en se laissant couler naturellement dans le peloton, on reprend les dernières positions et on repart en ayant fait nos besoins.
D'accord, ok. C'était pas de l'indiscrétion, mais c'était technique.
Non, mais oui, c'est important. Beaucoup de gens me posent la question et ça se fait. On s'arrête souvent par groupe. Hein. Ça permet de revenir plus facilement dans le peloton.
Les uns s'entraînent avec les autres.
C'est ça.
Et une question toute bête dont je... Ta réponse me satisfait parfaitement. C'est bon. À toi, Francis.
Alors, Thomas, Tour de France, vu. Et est-ce que tu aurais une passion pour un autre grand tour que tu aimerais faire?
Ouais, j'aimerais découvrir les autres grands tours. Le Giro, tout le monde dit que c'est un tour pour en tant que sportif à faire parce que le public, il y a une ferveur énorme. Et puis en plus, moi j'ai des racines italiennes, donc forcément j'ai un petit attachement. Mais dans le positionnement au niveau du calendrier, la Vuelta arrive à un moment sympa parce que c'est en plein été, il fait beau, il n'y a pas beaucoup de jours de pluie sur la Vuelta, donc c'est un tour qui est sympa à faire pour nous. c'est difficile au niveau du dénivelé, oui. Mais au niveau de la météo,
je crois
souvent
que c'est
pas
plus
trop
dur,
galère.
C'est le plus dur, non?
Ah oui.
Avec le Giro. Le Tour de France 2020, il n'est pas trop pour toi.
Non.
Il est fait pour un Bardet, pour qu'il gagne le Tour.
Ouais, même comme Julien, il peut jouer sa carte, à mon avis, s'il arrive dans la même forme et la même condition qu'il avait cette année.
Il y a la FDJ aussi.
Ouais, avec Thibaut Pinot,
avec
forcément.
Pinot, oui.
Ouais. Non, franchement, il y a de quoi faire pour les Français l'année prochaine sur ce tour.
Et puis, sur les autres grands tours, je me suis rendu compte, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a moins de pression.
Ah oui, il y a beaucoup
moins de
pression.
Parce que j'ai vu une arrivée de la Vuelta, le gars, il gagne, il est interviewé par, on va le citer, Eurosport, il a tout le temps de l'interviewer, et il lui dit, au fait, il dit, mais c'est toi qui as gagné. Ah ben il lui dit, écoutez, je ne sais pas si c'est moi, parce que pour moi, il n'y a personne autour de moi. Et deux minutes après, il est arrivé quelqu'un pour l'amener, parce qu'il avait gagné l'étape.
Ouais, c'est pas pareil.
Qu'en France, c'est...
Le Tour de France, c'est la plus grosse épreuve, donc forcément, médiatiquement, pour des coureurs comme Romain Bardet, Julien Alaphilippe, même Thibaut Pinot, c'est sûr que humainement, ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Mais à côté, ils ont énormément de sollicitations. Et je pense même que c'est plus dur pour eux en dehors du vélo que sur le vélo, des fois.
La preuve, cette année, Bardet, c'est à tout louper.
Après, le sport, c'est pas
par
une
contre,
science infuse.
Moi, je ne suis pas trop d'accord avec sa préparation, c'est tôt. Si après... on veut gagner un Tour de France, il faut quand même se faire voir sur d'autres épreuves et pas se contenter que du Tour de France.
Ça, après, ça, c'est ses choix. Il s'entraîne beaucoup. Je sais que c'est un coureur qui est très pointu sur sa préparation. Il fait pas ça au hasard. Ça a pas marché cette année. Si ça avait marché, tout le monde aurait dit c'est super.
Par contre, il a de sacrés lieutenants. Hein.
Ah ouais. C'est un coureur qui s'est fédéré. Et justement, parce que les coureurs voient qu'il met tous les moyens en sa possession pour pouvoir arriver au plus haut niveau. Il faut pas oublier quand même qu'il a fini deux fois sur le podium du Tour de France. Ouais. C'est pas négligeable.
Un autre coureur cette année qui m'a surpris énormément, c'est Rémi Cavagna.
Ouais.
Alors lui, c'est un rouleur.
Ouais. Ah, c'est une bête à rouler, lui.
Et quand
on
il
le met devant
tu
le peloton,
derrière,
et puis voilà, on lui dit roule.
C'est un garçon, pendant 50-60 km, il va amener tout le peloton. Lui.
Passionnant cette année. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de concurrents dans chaque équipe?
Souvent, les grosses équipes vont jusqu'à 30 coureurs. Après, on ne peut pas dépasser ce seuil.
Et il y a un minimum à respecter aussi.
C'est-à-dire que si on veut pouvoir. Si les équipes veulent pouvoir répondre à toutes les courses qui sont prévues au programme au niveau Pro Tour, quelque chose de cohérent pour pouvoir finir l'année et participer à toutes les courses, parce que c'est obligatoire pour les équipes Pro Tour de participer à toutes les courses Pro Tour, il faut être au moins 25-26 coureurs, et encore ça fait pas beaucoup, toutes les équipes Pro Tour sont à 28 coureurs minimum.
On marque une nouvelle page musicale et on se retrouve après. On va parler peut-être un peu gastronomie avec notre ami Thomas Bouda.
Tu me lâches, je sais pas ce que tu veux dire.
Thomas.
Et on est de retour sur Radio Entre-deux-Mers. Et il nous a rejoint Fred, l'animateur de la foire, qui nous fait le plaisir de venir. Et avec lui, on va développer un peu peut-être la partie culinaire. Non, c'est pas ça que tu voulais, Fred, parler un petit peu de diététique avec notre ami Thomas Boudard.
Oui, alors j'arrive un petit peu comme le cheveu sur la soupe. Là. Ça s'est bien passé l'émission au début, tout va bien ?
Oui, tout va bien.
Avec Thomas,
Fred,
Thomas,
oui.
Ça a été pas trop de,
non,
de questions trop compliquées ?
Un peu lourdes, on a été.
Parce que c'est pas son habitude quand même, quoique quand on a fait le Tour de France, on est un peu habitué donc aux médias, aux interviews.
Oui, forcément.
Forcément oui. Évidemment. Bon, ça je prends les choses en cours, parce que moi j'étais dans le live de la foire et je vous retrouve un peu dans cette ambiance posée. Gérard Beau à mes côtés, la régie et tout. Thomas, la question qui me vient à l'esprit, j'étais en train de parler de ce petit marché que REM a organisé. C'est ça, c'est vous,
tout
qui,
à fait,
c'est vous
à
qui avez organisé ce marché avec des produits confidentiels, remarquables d'ailleurs, des gens passionnés. La question qui vient à l'esprit, Thomas, qui dit performance, dit vraiment un régime draconien. Vous n'avez pas droit à un bon magret de la ferme avec un bon si merlot bio.
Si, si.
Ouais.
Si, même pas bio en plus.
Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de bio aujourd'hui.
Ouais, ouais. Ouais. Non, bien sûr que j'adore la gastronomie et ça fait partie de ma vie. C'est un équilibre à avoir. En plus, mes parents sont viticulteurs, donc forcément.
Viticulteur où ça ?
Pas loin d'ici, dans l'Entre-deux-Mers. À côté de Sauveterre, ils ont aussi un domaine dans les Graves, du côté de Langon. Donc voilà, et j'ai même organisé
la course des coteaux.
Ma rando à mon nom, la première jours. Édition là, il y a 15 jours, qui mêlait justement la gastronomie. On a fait un marché de producteurs avec les éleveurs girondins qui sont ici sur la foire, et avec tout un tas d'autres exposants dans le vignoble de mes parents, avec des dégustations, visites déchets. Et avant ça, on avait fait une petite rando où il y avait quand même plus de 760 participants. Et où on faisait une rando, il y avait une rando route, VTT et pédestre. Donc c'était l'occasion pour moi de mélanger ces deux domaines.
Alors justement, la question qui vient à l'esprit, je ne sais pas si elle a été évoquée. Donc vous n'êtes pas tombé dans le monde viticole ni gastronomique. Qu'est-ce qui vous a justement orienté vers le vélo ? La question a été posée ?
Non, c'est aussi dans la famille. En fait, mon grand-père a fait le Tour de France. J'ai des oncles qui ont fait le Tour de France aussi.
D'accord.
Et donc mes parents disaient que je savais faire du vélo avant de savoir marcher. Donc mon grand-père m'a mis au vélo tout petit. Et j'ai même une anecdote ici sur ce parking. C'est ici où j'ai fait mes premiers tours de roue officiels. Et c'est là où j'ai eu ma première grosse chute. Parce que j'étais venu à cette période et les feuilles commençaient à tomber. Il y avait un trou, je ne l'avais pas vu malheureusement. Et avec le petit vélo que j'avais, la roue avant s'était plantée dedans et j'avais fait un soleil. Oui, j'avais dit à mon grand-père, plus jamais je fais de vélo, je veux plus voir le vélo. Et puis au final,
je voulais abandonner la pédale.
Exactement. Et je suis revenu et maintenant j'ai fait quelques années chez les professionnels.
Ouais. Alors on se souvient toujours d'où on arrive, d'où on a commencé forcément. Il y a un club qui, Thomas, qui t'a fait confiance, avec qui t'as mis le pied à l'étrier.
J'y suis toujours d'ailleurs, le Vélo Club du Pays de Langon. Ça fait quelques années maintenant que je suis dans ce club. Et j'étais même hier au loto du club, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent dans l'ombre et qui nous permettent justement de faire des compétitions. Et pour moi, c'est important de retrouver ses racines et j'y suis très attaché. Et c'est pour ça que j'assiste au loto, ou j'assiste même à des courses que le club organise, parce que c'est important pour moi. J'ai toujours été fidèle à ce club. Et même quand j'ai signé ma première licence, pour moi c'était une forme de reconnaissance envers eux et envers tous les bénévoles, ouais, que de revenir signer dans le club. Parce qu'il faut savoir qu'on fait partie d'une team professionnelle, mais on est affilié à un club amateur pour pouvoir avoir notre licence avec la Fédération Française.
J'imagine que c'est une grande fierté pour le club quand il y a un membre du club, un jeune comme ça qui fait le Tour de France, même pour les plus jeunes qui sont dans le club. C'est une locomotive, c'est une motivation.
Ouais, c'est sûr.
C'est possible pour tout le monde, quelque part.
C'est sûr. Et j'y attache aussi pas mal de temps.
C'est bien.
De rencontrer tous les jeunes de l'école de vélo, essayer de créer des vocations. Dès que je peux leur ramener des petits souvenirs de l'équipe, des bidons, des choses comme ça, des chaussettes, tout ce qu'on arrive à avoir, c'est sûr que ça leur fait plaisir. Moi, ça me coûte pas grand chose. Mais si à côté on peut créer des vocations avec des jeunes, c'est toujours bien, parce que le sport cycliste, c'est un sport qui est difficile. Et c'est sûr que les jeunes, ils préfèrent aller avec les copains au foot que de faire du vélo et d'aller s'entraîner de façon très dure. Et c'est important pour moi de créer des vocations.
Et tu vois, je ouais. te coupe.
Vas-y, vas-y.
Pardon, parce que j'ai vu quelque chose d'extraordinaire aussi à la télévision la semaine dernière. C'était, pourtant, c'est quelqu'un qui a des sous, qui a énormément de sous. C'est M. Roger Federer
ouais.
qui a gagné le master de. Enfin, son. Qui a gagné
en
balle.
Suisse, ouais.
Et au moment de la remise de son trophée, juste avant, il a fait venir quelqu'un qui avait, avec un grand sac. Et dans ce sac, il y avait des médailles qu'il a été remettre lui-même à tous les ramasseurs de balles avant que on lui remette son trophée de vainqueur.
Quel beau geste.
Ouais.
Extraordinaire.
Et il a serré la main de tous les gamins. Et
c'est un grand champion.
Voilà.
C'est un grand champion aimé par tout le monde, je pense. Donc.
Et quand on parle de grand champion, est-ce que quand on n'a pas le melon, on n'est pas un grand champion?
Ah ben forcément.
Ouais.
Voilà. Forcément.
Voilà.
Ça,
donc Thomas, tu sais ce qu'il te reste. Hein.
Bon, il restera comme ça. Je pense qu'il est indéboulonnable. Je pense que Thomas, ça fait 10 minutes
Thomas,
que je le vois. Je pense
que je l'ai invité à venir aujourd'hui. Il est venu.
Ouais, ouais. Je pense que. Merci papa, merci maman, merci pour l'éducation
et
aussi.
Juste une question,
j'imagine
Thomas.
Aussi.
Tu parlais tout à l'heure de l'aréole et des feuilles. Est-ce que le cyclo-cross, c'est pour toi ou pas?
J'affectionne pas trop ça. J'affectionne pas trop ça. Mais ça m'arrive d'en faire, notamment à Saint-Macaire. Il y a le cyclo-cross d'Arnaud Lab.
Ouais.
Forcément, j'y vais, même si je suis pas un féru de cyclo-cross. Mais j'essaie de me battre avec mes moyens et de m'accrocher avec les meilleurs. C'est difficile, c'est difficile.
T'es pas comme Steve?
Non, 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 non.
Et lui, il fait du micro et du
vite. Ah ouais, il se débrouille très bien en cyclo-cross. Il a été champion de France et tout ça. Donc. Mais je préfère aller sur la piste, sur les vélodromes. Il fait beau, il fait chaud, il y a pas toute la météo. Parce que là, il y en a d'ailleurs qui font des cyclocross là aujourd'hui sous la pluie.
Oui. Les Belges, ils aiment ça.
Ouais, les Belges adorent ça. Et je prends assez de pluie durant la saison sur route. L'hiver,
Mathieu Van Der Poel,
ils sont très bons.
Ils sont très bons. Et après aussi, on les voit sur route.
Et on les voit sur route. De plus en plus de cyclocrossman arrivent sur la route.
Van Poppel.
Van Der Poel, oui.
Van Der Poel, c'est le petit-fils à Poupou.
Ah d'accord.
Ouais. Voilà.
Et c'est
d'accord.
Un grand champion, il a 21 ans.
Ouais.
Quel regard as-tu sur le cyclisme féminin?
Ça se développe énormément. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est très important. Les instances internationales essaient de justement ce qui est un équilibre entre les courses masculines et féminines. Et le Tour de France, encore une fois, fait beaucoup pour ça. Organise
le Tour d'Italie aussi.
Le Tour d'Italie un peu moins. Le Tour de France crée
un. Ils ont créé un truc.
Ça commence, ouais, ça commence. Et le Tour de France essaie de justement créer l'engouement, d'apporter l'engouement plutôt qu'il y a pour le Tour de France masculin. Créer des courses en même temps que le Tour de France masculin, mais des courses féminines. Pour justement mettre un petit peu en avant ces courses-là.
La Vuelta leur donne une étape.
C'est ça. C'est la société qui organise le Tour de France, qui maintenant gère la Vuelta. Et ouais. Et du coup, c'est eux qui mettent en avant le cyclisme féminin. Ouais.
Et ton regard sur le BMX?
C'est totalement différent du cyclisme traditionnel. Ça accroche beaucoup, notamment les jeunes. Parce que c'est quand même spectaculaire. Moi, même le premier, quand je vois les rampes qu'ils ont au départ, là, j'y réfléchis à deux fois avant de descendre. Donc,
à ce point-là.
Ah ouais. Les buts qu'ils ont au départ sur des compétitions internationales et tout ça, il faut quand même être solide, avoir les boyaux bien accrochés pour les faire.
Tu parles de pattes, quel est le meilleur descendeur français?
Bardet. Je pense que, non, Julien, quand
Julien,
même. Ouais.
C'est le plus acrobate.
Ouais. Il maîtrise son vélo, il est très fort en descente.
D'accord. Et après? Après, sur la route?
Sur, pardon?
C'est comme sur route.
Un bon rouleur. Rémi Cavagna, en France, c'est sûr. On a un très bon rouleur. Qui, lui, c'est on roule toujours, il n'est jamais fatigué.
Et toi, à la montagne, alors?
Ah, c'est pas trop pour moi. Je suis un peu trop lourd pour faire la montagne, moi.
Et tu t'attends quand même.
Oui, je m'y entraîne parce que forcément, pour faire des courses par étapes, on est obligé de rentrer dans les délais. Sur le Tour de France, on est obligé de prendre le groupe Eto. Et les gens se rendent pas compte. Ils pensent que le groupe Eto, c'est facile à avoir. Mais sur des étapes, j'ai des souvenirs. Sur des étapes où on fait 190 km avec 4-5 000 mètres de dénivelé, il y a 4-5 cols à franchir. Il faut pas arriver plus de des fois 30-35 minutes après les premiers. peux vous garantir qu'il y a du sport. Il y a du sport.
Francis, vous avez déjà monté un col, vous, pas ça ? Moi, j'ai fait le plat d'AD une fois, je me rappellerai toute ma vie. Je crois que j'ai jamais eu autant de soif de ma vie. J'ai bu dans les... l'eau qui dévalait de la montagne.
Là,
c'est étonnant. C'est étonnant. Non, c'est extraordinaire. Je vais vous laisser. Thomas, je suis enchanté, vraiment.
Moi aussi.
Je dois repartir. Vous, Thomas, vous repartez, vous courez avec un vélo. Et moi, j'anime avec l'eau. Aujourd'hui. Permettez-moi l'expression.
Bon courage.
Et un micro. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir, Thomas. Mais du coup, je vais surveiller mon poste pour le prochain tour. Et je vais crier derrière. Allez, Thomas. Allez, Thomas.
Et puis, Frédéric Étanche.
Comment ?
Frédéric Étanche.
Oh non, je pêche pas.
Non, Étanche.
Ça, c'est sûr.
Alors, pour les demoiselles ou la chante féminine qui écoute la radio, vous n'avez pas l'image de Thomas en face de vous. Thomas, s'il fallait le décrire, c'est un beau ténébreux. Voilà.
Ah ouais, il est pénible, quoi. Il est beau et sportif. Ah,
il est magnifique, il est splendide. Wow. Et c'est un gentil homme qui parle, rassure-toi.
Il avait des belles valeurs en plus.
C'est gentil. Tu es bien dans ta tête, physiquement, merci. Tu es un bel homme, tu as deux fossettes magnifiques, une barbe de 2-3 jours à la Gainsbourg qui te va très bien. T'es super,
voilà. Je vais finir par rougir. Voilà.
Je ne te drague pas, je te complimente.
C'est gentil, merci.
Eh bien, merci Thomas d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Et puis on va te souhaiter tout le meilleur pour 2020.
C'est gentil.
Et puis un Tour de France, peut-être une Vuelta, peut-être un Giro, qui sait.
Pourquoi pas.
Et sur le porte-bagages d'Alaphilippe, ou même plutôt devant, parce qu'autrefois il y avait des vélos, il y avait des porte-bagages devant.
Oui. Là, c'est difficile.
Bonne journée et
merci
bonne saison.
Merci à toi Thomas.
Oh,
Thomas.
Merci beaucoup.
Bravo journée. Thomas, une de nos fiertés nationales.
C'est gentil.
Since I was a young boy, in this world, everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word, and I have to say, that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free.